Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Il y en a eu une dizaine des livres pour enfants qui ont tout transformé pour moi. Une dizaine ou une quinzaine, dont j'ai encore la couverture en tête, la typo du titre, la texture et l'espèce de sidération après l'avoir refermé. La découverte de cet âge, ça fait cet effet-là, les livres. Parmi eux, il y a eu Dinky Rouge Sang, roman d'enquête que je n'ai pas lu depuis à peu près 25 ans et dont seules les sensations me restent. Des battements de cœur, une intensité. Son autrice a écrit plus de 80 romans, dont Oh Boy, La Dame qui tue, Babysitter Blues, ou plus récemment la série Sauveur et Fils. Elle a vendu des millions d'exemplaires, changé des millions de vies de lecteurs, et continue de s'interroger sur son écriture et son époque. Quelques semaines après cet entretien, elle publiait une tribune dans Libération, s'inquiétant des indignations qui agitent les réseaux sociaux et les maisons d'édition, craignant d'arriver à l'impossibilité même de la fiction, c'est-à-dire, dit-elle, la liberté pour un créateur d'imaginer ce qu'est l'autre. C'est Marie-Aude Muraille qui nous invite dans sa bibliothèque. Elle nous parle de Tintin au Tibet, de Hergé, de Lorenzaccio, de Musset, et de L'Ami commun, le mystère d'Edwin Drood, de Dickens. Vous écoutez Le Book Club, un podcast de Louis Média, et c'est Maud Ventura qui vous guide parmi les livres de Marie-Aude Muraille.
Là, on est devant la vitrine qu'a sculptée mon grand-père. On est dans les années 1914. Voilà, alors je vais l'ouvrir. Et à l'intérieur, eh bien, il y a vraiment le cœur de ma lecture, c'est-à-dire c'est Dickens. Donc, il y a toute l'œuvre complète de Dickens. Et surtout, il y a celui que je sortirai tout à l'heure. Donc, il y en a deux que j'avais, en fait, à l'adolescence, volés dans la bibliothèque de mon papa.
Bravo.
Voilà. Je suis dans la maison de mon père ici, celle qu'il a achetée après la mort de maman. Donc, c'est un peu retour chez lui. Voilà, je lui rends quand même ses livres.
Hein. Et finalement, c'était qu'un emprunt.
C'était qu'un emprunt, un petit peu à long terme, mais ce n'était qu'un emprunt. Donc voilà, ça, c'est la petite vitrine que je referme. Voilà.
Vous fermez à clé ?
On ferme à clé. Et de l'autre côté, donc ça, c'est ma chambre. Et donc là, il n'y a pas énormément de choses. J'ai ramené ce qu'on appelait autrefois un cosy, donc le truc qu'on met le long du lit où on pose précisément ses livres de chevet. Alors, ben voilà, tu vas peut-être savoir ce que je lis en ce moment. Je vais aller te le chercher. Ah. Il est juste à côté. Voilà. C'est à côté de mon oreiller, ça s'appelle « Cet obscur objet du dégoût ». Alors, c'est le genre de bouquin, tu dis « je ne vais pas le lire en mangeant, je ne vais pas le lire en me réveillant, je ne vais pas me lire en me couchant
hein. ». On le lit quand alors ?
Voilà, c'est ça le problème. Eh bien, les insomnies entre 2h et 4h du matin, pour bien se dégoûter en pensant à la morve, au crachat, au poil, tout ce qu'on rejette, ça va très très loin, hein, puisque ça va jusqu'au racisme, jusqu'à l'autre désigné comme monstre, etc. Donc, c'est une réflexion philosophique. Ah, Alors, évidemment, on est plusieurs dans la maison. Donc, il y a eu mon père, donc il va y avoir la bibliothèque de mon père qui est mélangée. Ici, ce sont plus les livres que va lire mon mari, parce que c'est de la littérature contemporaine. Alors, pour ne rien vous cacher, les romans, la fiction contemporaine, j'en lis très peu. C'est une manière de me protéger. Et puis, je pense, comme Jules Renard, que, comme il disait dans son journal, je ne lis rien de peur de trouver des choses bien.
Donc, vous protégez de quoi ?
De la concurrence, de la jalousie, de l'admiration excessive, de l'influence possible. Alors, de temps en temps, malgré tout, je lis parce que je me dis, bon, il faut quand même que je vois. Hein, on en parle beaucoup, il faut que je sache. Mais alors, je lis un petit peu à distance, je lis en travers, ou avec un regard qui essaie déjà de décortiquer, alors que ce n'est pas comme ça que je lis d'habitude, je lis pour aimer. Alors là, donc, c'est une bibliothèque où il va y avoir, ça commence à rentrer, de la psychanalyse, de la sociologie, de la psychologie, et la bibliothèque est à côté. Alors là, on est dans l'ésotérisme. J'avais un père qui était très versé dans l'hermétisme, et puis ça va jusqu'en bas, c'est du paranormal. Là, on est dans les soucoupes volantes, donc on démarre...
C'est progressif.
Voilà, on démarre avec toute la spiritualité juive, puis arabe, et etc. Et puis on descend, on va arriver, et là on est déjà dans les magnétiseurs, la sorcellerie, toutes ces choses-là m'intéressent énormément également. Alors on a partagé la bibliothèque de mon père avec ma sœur, qui est également une fan des maisons hantées, toutes ces choses. Donc, et les tables tournantes de Guernesey, puisque Victor Hugo faisait tourner les tables, et il rencontrait comme ça Jésus et Alexandre, qui parlaient d'ailleurs en langage de Victor Hugo, ils faisaient tous des alexandrins, c'était pas tant. Donc mon père avait toutes ces choses très très étranges, et tout en bas, c'est ce que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, en fait, c'est la physique. Donc moi je fais voisiner tout ça. Par contre, la physique quantique, j'ai découvert ça il y a 3 ans, on va dire. Je n'ai aucune formation scientifique, je suis analphabète de sciences et de chiffres. Je ne peux jamais... 3 et 2 ont toujours fait 6. Et je ne mens pas, hein, c'est réellement ça. D'ailleurs, ça fait combien ? Ça fait 5. Essaie de me faire une opération, un pourcentage, etc. Ça bloque très vite. Et si on essaie de m'expliquer, mon grand frère essayait de m'expliquer, parce que c'était le seul qui m'aidait en maths. J'y allais toujours à la dernière minute pour qu'il m'aide et tout, ça fait peur. Et j'ai toujours eu envie de pleurer. C'est très, très affectif, les mathématiques. Et la science aussi. Et donc, j'ai voulu comprendre il y a 3 ans. C'est pour ça que je dis aux enfants, parfois, vous savez, on apprend à lire toute sa vie. Moi, par exemple, j'ai appris à lire un nouveau langage il y a 3 ans. Et au début, je comprenais rien. Alors évidemment, je ne suis pas allée directement aux grands auteurs. Hein. Enfin, j'ai essayé, mais au bout de quelques pages, je me suis dit, bon, ok, là, c'est du chinois, c'est de l'arabe, c'est ce que je veux, mais c'est pas ça. Je ne peux pas comprendre. Donc, je suis retournée, j'ai pris les sciences et vie junior. Heureusement, on garde tout ici. Donc, les sciences et vie junior de mon fils, il a été abonné. Et donc, il y avait un certain nombre d'articles qui tournaient autour de cette thématique. Je me suis accrochée et j'ai commencé à comprendre. Et puis après, j'ai pris des documentaires qui sont bien expliqués, des podcasts. Et puis après, je suis retournée vers les auteurs. Bon, je ne dis pas que j'ai compris, je dis que j'ai pressenti que c'était effectivement une ouverture métaphysique et que c'était juste vertigineux. Ben oui, je leur dis, voyez, on apprend à lire toute sa vie.
Alors là, on descend au sous-sol. C'est une maison biscornue et je n'ai pas pu l'installer de façon très rationnelle. Donc, c'est comme ça. Et donc ici, on commence à installer, mais elle n'est pas finie d'installer non plus. La bibliothèque qui correspond donc à tous les classiques. Hein. Donc là, ici, ce sont tous les poètes, rangés par ordre alphabétique. Il y a aussi bien les grands classiques que des petits poètes, presque du poète à compte d'auteur, puisqu'en fait, mon père publiait toutes sortes de poètes contemporains. Et donc, on en a quand même beaucoup la trace. Et tout là-haut, donc, ce sont tous les ouvrages de mon père en poésie, puisqu'il était à la fois peintre et poète. Et puis au milieu des poètes, il y a un buste qui a été sculpté par un ami de mes parents. Ce buste, c'est ma maman. Voilà, ma maman qui m'a dit un jour, je n'ai pas épousé un homme, j'ai épousé un poète. Donc c'est bien qu'elle soit là avec Nerval et Mérimée et Louise Labbé. Alors ici, Eh bien, oui, il commence à faire un peu froid d'ailleurs. On descend, on est au rez-de-jardin. Et là, bon, bah, alors il y a toute la BD. Et donc, bon, bah, on va voir effectivement tous les classiques, les Gaston Lagaffe, les Spirou, les Bleck et Mortimer, mais aussi les Bidochon. On aimait bien les choses un peu trash, les Cranibal, formidables. Bon, on a Goscinny, ça c'est sûr que c'était un des génies de on va dire, de la littérature. Hein. Et à côté, bon, ça c'est les albums. Alors moi, j'ai besoin de posséder. Il y a des livres, j'ai pas besoin de les posséder, je peux les prendre en bibliothèque. Les albums, pour les petits, il me les faut.
Pourquoi ?
Ah bah, c'est à cause de l'illustration, j'en ai besoin. C'est des objets d'art, c'est des souvenirs, c'est des morceaux de vie, ces livres. Ça a été tellement lu, hein, je vois, que ce soit la chasse à l'ours, Juste une seconde, Otto, Les Trois Brigands, Max et Maximence, bien sûr. J'adore les pop-up. Bon, ils sont tous un peu démontés parce que les enfants tirent trop fort. Tout, quoi. On sait, tous les babars, etc. Quand on a eu des enfants, on sait très bien tout le temps qu'on a passé à lire et à relire. Bon, c'est pour ça que je suis auteur pour la jeunesse, en fait. Je dis souvent, c'est parce que je veux pas être lu, je veux être relu. Et donc, il y a que les enfants et les ados pour vous relire. Les petits, ils vous oublient pas, ils vous savent par cœur. Il y a quelques-uns des bouquins, mais ils sont ailleurs aussi, que je lisais étant enfant. Certains viennent véritablement de mon enfance, mais d'autres, je les ai retrouvés chez les bouquinistes. Un jour où j'étais presque déprimée, ça m'arrive pas souvent, mais presque déprimée, c'était sur une brocante en pleine rue, une caisse, et dans cette caisse, tous les livres de la collection des Jacques Rogy, qui étaient des policiers pour enfants. Quelque chose de très très rare en réalité à l'époque. Il n'y avait pas d'histoire, il y avait le Club des Cinq, mais c'était des enfants. Et là, Jacques Rogy, c'était un adulte qui faisait des enquêtes policières pour les enfants. Et donc, il y avait toute une série qu'on lisait, mon frère, ma sœur et moi. Et là, ils étaient tous là. Et c'était merveilleux parce qu'en même temps, je sentais que ça avait appartenu à un autre enfant. Voilà. Et quand j'ai ouvert, c'était comme dans une histoire de Jacques Rogy. Il y a une photo qui s'est échappée en noir et blanc. C'était la photo du propriétaire de ces livres. Et il y a une des histoires de Jacques Rogy qui commence quasiment comme ça. Alors, ce qui est merveilleux avec cette histoire de Jacques Rogy, c'est que l'auteur s'appelle Pierre Lemblin. Si vous tapez Pierre Lemblin sur Google, c'est, je pense, le seul nom où vous n'aurez rien.
Pourquoi ?
Mais je ne sais pas. C'est un mystère à la Jacques Rogy. Pierre Lemblin n'existerait pas.
Vous avez donc choisi trois livres qui dessinent en fait votre parcours de jeune lectrice, trois jalons dans votre découverte de la lecture, par ordre chronologique si je ne me trompe pas. Mais d'abord, pourquoi vous avez choisi trois lectures de votre jeunesse ?
Alors je trouve que les trois livres préférés, je ne sais pas si c'était exactement la question comme ça, ça met un enjeu trop fort à la réponse, parce qu'on a l'impression qu'on va être jugé. Faut avoir l'air intelligent, faut avoir l'air original. Alors on va essayer de sortir un poète arabe du 5e siècle, des choses comme ça. Donc je vais me simplifier la vie, et puis comme je suis écrivain jeunesse, il y a quand même une certaine logique à ça. Je vais parler de trois livres qui ont effectivement marqué ma progression vers la lecture, la littérature et l'écriture. J'ai choisi Tintin au Tibet, Hergé. Lorenzaccio, Musset, Notre ami commun, Dickens.
Mais dans ce choix donc, d'avoir choisi trois livres de jeunesse, vous avez expliqué pourquoi, mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que les lectures de jeunesse marquent peut-être plus qu'une lecture faite plus tard dans la vie ?
Effectivement, ce sont des livres qui s'impriment dans une cire vierge. Donc, les premières images, notamment, vont vous marquer. En fait, j'ai été impressionnée par des bandes dessinées, ou des albums, ou des couvertures de livres qu'on n'oublie plus jamais. Alors, voilà, j'ai commencé donc par Tintin au Tibet. Alors, on va parler de lui. Donc, c'est vraiment le livre de l'amitié, en fait. Alors, il y a cette merveilleuse amitié entre Tintin et le capitaine Haddock qui va se jouer ici à plusieurs reprises avec Tintin au Tibet, puisque à chaque fois, le capitaine Haddock lui dit « Non, je te suis plus, je ne vous suis plus, il se vous voit, je ne vous suis plus. Vous voyez bien que c'est déraisonnable, que cet enfant qui est dans la montagne avec cet accident d'avion, il est mort de froid, c'est de la folie. Moi, je rentre. Hein, ça suffit comme ça. » moussaillon. Et puis, on tourne la page, et la page d'après, il est en train de faire son bagage, et il met bien plusieurs bouteilles de whisky pour se tenir quand même le cœur au chaud, et il va suivre à nouveau Tintin. Donc, jusqu'au bout, à chaque fois, il se reprend. C'est une amitié qui lâche pas prise. Mais l'autre amitié très, très forte, ça va être entre Tintin et Chang. Donc, ce petit garçon qu'il a rencontré dans le Lotus Bleu, et qui est son ami au loin, et cet enfant donc s'est écrasé avec un avion, il s'est écrasé dans la montagne au Tibet. Et Tintin fait un rêve prémonitoire, enfin il rêve ou télépathique, il sait pas trop lui-même, où il rêve que Chang l'appelle au secours, Tintin. Et donc c'est la seule piste qu'il a, et tout le monde essaie de le dissuader parce qu'il n'est pas possible que l'enfant ait survécu. Voilà, donc il va monter une expédition, il arrive au Tibet, et c'est une nouvelle histoire d'amitié, cette fois-ci avec Sherpa Tarké. Donc c'est le guide qu'on voit sur la couverture également, qui essaie un peu de le dissuader, mais qui est admiratif. On va partir donc au Tibet, et on va sur le lieu de l'accident avec cet avion fracassé, de superbes images. J'ai su plus tard que c'était le Tintin que Hergé avait écrit en pleine dépression et que c'était la raison de tout ce blanc, en fait, de toute cette neige. Et peut-être c'est la raison qui fait aussi que je suis tellement attachée à cet univers-là.
Et donc, parce que c'est un Tintin très intérieur par rapport aux autres histoires où il va y avoir beaucoup de péripéties, des méchants. Là, il n'y a pas de méchant. Le seul méchant, c'est soi-même et l'espoir. Enfin, c'est un peu une quête intérieure.
C'est qu'est-ce qu'il va gagner, en fait, effectivement, de l'espoir et de l'amitié ou de la faiblesse, de la lâcheté, même à certains moments, et du découragement. Et donc, il y a cette image particulièrement forte pour moi qui est page 35. Adieu, Chang. Adieu. On voit pas souvent Tintin pleurer. C'est peut-être même une des rares fois où on voit vraiment, on imagine la gorge serrée et puis il y a des larmes sur son visage. Eh ben, c'est le moment où effectivement, c'est le sommet du découragement, en fait. Et, Sherpa Tarké et le capitaine Haddock, allons, mon petit, venez, vous avez fait tout ce qui était humainement possible. Reste quoi, hein? Le surhumain. Alors les Tintins, je les connaissais par cœur, voilà, ils étaient à mon frère et à ma sœur, c'était une des livres indivis. Je faisais semblant de les oublier, c'est peut-être là que j'ai appris à être amnésique en fait. Je m'efforçais d'oublier, d'effacer les Tintins pour avoir toujours ce même plaisir de la double page avec le suspense à la fin, la dernière case, que tu ne sais pas ce qui va se passer, que tu as très peur et que tu vas tourner très vite. Donc il faut une grande fraîcheur pour éprouver ça. Donc, je me suis sans doute habituée à oublier ce que je lisais.
Parce que ce Tintin au Tibet, vous l'avez relu plusieurs fois.
Alors, je ne peux même pas compter le nombre de fois, mais je l'ai relu là, juste, pour pouvoir en parler. Et le plaisir est intact, en réalité. Tintin m'a emmené effectivement sous les mers, sur la lune, chez les Incas, chez les Indiens, au Tibet. Et en fait, je vivais entre l'école et la maison et l'école. Donc, ça a été notre Jules Verne à plusieurs générations, je pense, d'enfants. Et on se retrouve maintenant, disons, les cinquantenaires et plus, à avoir ça en commun. On a eu Tintin en commun. C'était l'ouverture sur le monde extérieur. Il nous parlait de l'or noir, c'est-à-dire des conflits au Moyen-Orient. En fait, on ne savait pas à quel point il parlait de l'actualité. Il nous parlait de l'esclavage avec Coq en stock, et puis de la drogue avec le crabe aux pinces d'or. Mais c'était des sujets terribles, et on s'en rendait pas vraiment compte. Nous, on lisait pour Tintin, on lisait pour l'aventure.
Les Tintins, ça fait longtemps qu'on commence à se dire qu'il y a des choses racistes, il y a des choses sexistes, il y a quand même aucun personnage féminin fort. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'on peut encore lire Tintin en 2019?
Tintin au Tibet ne pose aucun problème. Le seul qui pourrait poser problème, c'est Tintin au Congo, parce qu'il y a Missier Tintin, etc. Bon, là aussi, il faut se replacer dans l'époque, se dire que, effectivement, c'est le Congo belge. On était en pleine période colonialiste. Lui-même a admis, il a fait un parcours Hergé. Et c'est pour ça, je pense, qu'il y a Chang aussi.
Pour vous, ouais. Tintin, c'est une œuvre qui vieillit bien?
C'est surtout ton cœur de 7 ans qui vieillit pas. C'était de 7 à 77 ans. J'ai pas encore atteint la limite. Mais je pense que Madame Calment pouvait encore le lire à 122 ans. Donc je pense surtout que c'est des histoires comme ça qui sont vraiment sur les sentiments éternels. Et je pense que ça parle à un cœur adolescent. Et pourquoi perdrions-nous notre cœur adolescent?
La question que je me pose, c'est, vous l'avez lu pour la première fois à 10 ans, je suppose?
C'est ça.
Voilà, à peu près.
Est-ce qu'à 10 ans, on a cette lecture métaphorique, cette double lecture ?
Je pense que j'ai eu de tous ces livres une double lecture, puisque j'ai fait des études de lettres. Voilà. Donc j'ai d'abord été, et je reste, une lecture et une lectrice naïve. Voilà. Et l'autre lectrice, elle est savante. Et je pense que les deux peuvent cohabiter. On oublie trop souvent à l'école l'une ou l'autre, l'un ou l'autre. Il faut permettre la première lecture, la lecture pour l'histoire, pour les sentiments, pour rire, pour pleurer, pour s'attacher aux personnes, pour dire « Oh, c'est dégoûtant, c'est pas juste. Ah, chic alors !» Et ça, quel que soit ton âge, tu dois t'autoriser cette lecture naïve, parce qu'autrement, tu vas perdre toute ta fraîcheur et toute la fraîcheur de l'histoire. Et c'est Giraudoux qui décrit les critiques littéraires arrivant pour aller voir une de ses pièces de théâtre. Alors, ils sont dans le hall d'entrée, etc. Alors, très gais, très frais, bien rasés, sentant leur shirt-shave, etc. Puis, ils rentrent dans la salle de théâtre et puis, ils ressortent. Ils sont défraîchis, fatigués, poussiéreux, soucieux. Ils ont essayé de comprendre. Ils ont raté quelque chose. Ils ont oublié d'aimer.
Et c'est ce que savent très bien faire les enfants, selon vous ?
Bah ouais. C'est j'aime, j'aime pas, c'est vrai. C'est très, on est premier degré. Hein. Et en fait, au fond de nous, il y a cet enfant jusqu'au bout. Alors, il faut l'écouter. C'est ma première lecture de ce que je lis. D'abord, je lâche. De la même façon que quand je vois un magicien sur scène, j'essaie pas de savoir quel est son truc. Voilà. Après, il y a une deuxième lecture qui est pratiquement aussi magique. Et c'est celle que vous apprends à l'école, puis si tu fais des grandes études, ce que t'apprendras, la faculté, bon, c'est-à-dire que tu mets les mains dans le moteur. Et cette fois-ci, tu vas voir comment ça fonctionne et pourquoi ça marche sur toi. Et alors là, tu es de nouveau émerveillé. Tu peux reprendre les mêmes textes. Et cette fois-ci, tu vas voir le sous-texte, effectivement, et puis aussi le truc. Bien sûr qu'il y a un magicien derrière. Et il y a même des ficelles, des fois. Et t'es bien content de les trouver. Et tu te dis peut-être à la fin, « Ah ben, moi aussi je peux faire. » Et tu vas essayer.
En faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte que Hergé avait continué à modifier ses Tintins au fur et à mesure des années. Bon, pour des détails, parfois juste mettre à jour. Par exemple, la locomotive à vapeur se transforme en train électrique. Je crois que vous faites la même chose dans vos livres.
Exactement. Bah, c'est encore un truc sur lequel j'y pensais pas, mais en fait, si. J'y pense quand je l'ai fait. J'y ai pensé. J'ai pensé à Tintin très fort. Quand je me suis dit, je vais réactualiser. Je vais faire mon petit Hergé. Donc, quand j'ai repris Babysitter Blues, où le gamin économisait pour s'acheter un magnétoscope, je me suis dit, bon, magnétoscope, à 12 ans, là, maintenant, ils savent même pas à quoi ça sert, la cassette et tout. Donc, je vais mettre un PC.
Est-ce qu'il y a aussi des choses que vous pouviez écrire il y a 20 ans, que vous pouvez plus écrire maintenant?
Là, on va retoucher au problème de Tintin, du sexisme, du racisme. C'est pas que j'étais particulièrement frappée par tous les préjugés, mais j'étais de mon époque aussi. Donc, je me suis bien aperçue que les rapports garçon-fille, par exemple, ils ont évolué. Moi, je mettais énormément de personnages masculins pour l'aventure. Mais il y a eu Tintin, mais il y a aussi Jeannette Pointue. Il y a aussi des héroïnes de bande dessinée qui partent également à l'aventure. Donc, j'ai certainement introduit plus de personnages féminins au fur et à mesure. Mais aussi, dans certains dialogues, j'ai rééquilibré. Elle relance mieux la balle. Donc, il y a des petites choses, c'est très léger, hein, mais ça me gênait, en fait. Bon, voilà, j'ai été quelque peu rééduquée par ma fille, en fait, donc qui a maintenant 25 ans, qui m'a appris ce que c'était qu'une fille. Et peut-être que j'ai fait une nouvelle mue féministe. Je pense que j'étais féministe. J'avais senti l'injustice qu'on me faisait, notamment moi en tant que créatrice. Je le sentais, ce plafond de verre et toutes ces choses-là. Hein. Mais peut-être qu'il fallait que j'aille plus profondément dans mon inconscient et dans ces choses que j'avais en fait entérinées, acceptées, et qui ont été à nouveau bousculées par la jeune génération qui arrive. Et c'est bien, et ça me remet en cause. Et bon, les dernières choses qui ont été republiées, comme Vive la République chez Pocket, j'ai demandé à ce que ce soit relu par une jeune fille, donc c'est une duale de 20-21 ans, et qui a mis des notes en marge. Et donc, tantôt ça m'a agacée, tantôt je me suis dit non, surtout pas. Et puis des fois, je me suis dit, ah ouais, elle n'a pas tort.
Vous pouvez donner un exemple, par exemple, de quelque chose que vous auriez changé dans votre texte relativement au rapport homme-femme ?
Oui. Alors, il y a une bande d'enfants. Là, c'est dans Golem. Il y a une bande d'enfants, trois garçons, une fille. Quand il y a des moments de suspense, devine qui c'est qui pleure ?
Les filles.
Voilà. Donc, c'était toujours Aïcha qui pleurait. Bon, ça, là, non. Voilà. Donc, j'ai enlevé ça. Voilà. On a mieux réparti les sentiments de peur et de frayeur, etc. Et puis, qui c'est qui avait toujours la bonne idée pour se sortir d'affaire?
Je suppose que c'était le garçon.
Voilà. Alors, j'ai remplacé par un « nous » qui permettait de faire que la fille soit associée. Non, c'est vraiment... Tu le verrais pas, si tu veux. Mais ça m'a grandement soulagée.
Un dernier mot sur Tintin. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte merveilleux de Proust qui s'appelle « Sur la lecture ». C'est très très court, ça fait 30 pages. Et c'est un petit texte où il raconte ses souvenirs d'enfance, enfin ses lectures d'enfance. Et en fait, sa théorie, c'est que pendant qu'on lit, on pense qu'en fait, on ne fait pas partie du monde et qu'on est dans notre bulle, alors qu'en fait, c'est là où on est le plus présent. Et qu'en fait, quand on est en train de lire, c'est à ce moment-là qu'on se souvient le plus de ce qu'il y a autour de nous et qu'on a les souvenirs les plus précis. Et donc, il décrit la chambre dans laquelle il est, quand il est en train de lire, sa mère qui l'appelle pour manger, et tous ces petits détails dont il se souvient très très bien. Parce qu'il était en train de lire. Et donc, vous, quand vous lisiez Tintin au Tibet, est-ce que vous vous souvenez où est-ce que vous étiez ?
Exactement, une des images les plus fortes de mon enfance, puisqu'on ne, lisait jamais de livres à voix haute quand j'étais petite, sauf Tintin, que me lisait mon frère aîné parfois. Et je le sais, à cause d'une image, mais qui est restée très très forte. Donc, il est en train de me lire Les Sept Boules de Cristal. C'est cette double vignette où, oh, toujours, regardez capitaine, n'est-ce pas ? Trifon Tournesol vient d'être enlevé. Et en fait, le capitaine Haddock lève la tête et il voit, et Tintin lui dit, la trace d'une main ensanglantée. Donc, on voit une main de sang posée sur un tronc d'arbre. Et pendant que mon frère me lit cette phrase, la trace d'une main ensanglantée, il y a ma grand-mère qui passe derrière et qui dit, c'est un livre pour les enfants, ça ? Jamais oublié la fierté que j'ai ressentie. Mon grand frère m'initie à un livre qui n'est pas pour les enfants.
Donc Tintin, c'est votre lecture à 10 ans. On va faire un saut dans le temps de 5 ans et on arrive à Lorenzaccio.
Lorenzaccio, Musset. Alors, on va parler de la lecture et de la lectrice naïve pour commencer. Parce que j'ai aimé Lorenzaccio, on va dire, pour de mauvaises raisons. D'abord, si tu regardes bien la couverture de maintenant de Lorenzaccio, on voit deux personnages hommes qui sont pratiquement enlacés. C'est Lorenzaccio et Alexandre. Donc le tyran de Florence, un bâtard des Médicis. Ce couple, est un couple maléfique. C'est la version maléfique de l'amitié. Moi, ce que j'ai flashé sur Lorenzaccio, pour deux raisons. Un, c'est un bad boy. Donc c'est un des premiers héros négatifs, si l'on veut, mais c'est quand même un héros, et on va l'aimer. Deux, c'est une histoire d'amitié maléfique. Et c'est en réalité une image de l'homosexualité. Donc moi, à 15-16 ans, je cherchais qui aimer, je lisais pour aimer. Je suis tombée amoureuse d'un homosexuel. Bon, et c'était véritablement l'expression de qui j'étais. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans ma tête en étant un garçon, ça c'est sûr. Et en même temps, j'avais cette sexualité qui m'attirait vers les garçons. Donc, j'étais un garçon qui aimait les garçons. Donc, j'étais Lorenzaccio. Donc, ça, c'est la lecture naïve. Et c'est cette lectrice au premier degré. Donc, je l'ai lue à plusieurs moments de ma vie. Et je l'ai lue aussi au moment où j'ai écrit 3000 façons de dire je t'aime. Parce que ça avait tellement compté pour moi, cette pièce de théâtre, qu'il n'était pas pensable qu'elle ne soit pas jouée par un des personnages de mon histoire. Ce sont trois personnages qui sont au conservatoire d'un dramatique, qui veulent être acteurs. Et donc, bon, le héros, d'ailleurs ambivalent sexuellement, qui s'appelle Neville, son professeur va lui proposer d'incarner Lorenzaccio pour passer le concours d'art dramatique à Paris. Donc, il va prendre une des grandes tirades de Lorenzaccio, qui est citée effectivement dans mon livre, c'est « Tu me demandes pourquoi je tue Alexandre ».
Si on résume, Lorenzaccio constate qu'à Florence, un tyran règne en maître, Alexandre, et il décide de le tuer pour restaurer la République. Mais la question, c'est... Donc, il le tue. Et la question, c'est...
Pourquoi ?
Est-ce que, effectivement, c'est par idéalisme politique, Pourquoi cet assassinat?
Voilà. Donc, va-t-il le tuer? Et pourquoi le tuer? Et le problème étant pour lui qu'en réalité, il est devenu comme l'autre. Il est devenu un débauché. Et il y a cette merveilleuse tirade où il dit mais moi, j'aime le vin, le jeu, les filles. En fait, ça y est, je suis pourri. Et l'autre, et il y a la fameuse phrase de Strozzi, celui qui voudrait plus ou moins la République, et qui lui fait « Mais quel abîme tu m'ouvres ?» Et Lorenzo qui lui répond « Tu me demandes pourquoi je tue Alexandre ? Veux-tu donc que je m'empoisonne ou que je saute dans l'Arno ? Tu veux que je devienne un spectre ?» Et il lui explique donc que ce meurtre, c'est tout ce qui me reste de ma vertu. Voilà. Simplement, il ne se fait aucune illusion, car il dit « Vois ce que je suis devenu. » Et les gens continuent de m'ouvrir leurs portes, de m'offrir leurs filles. Et les enfants ne me jettent pas des pierres. Il dit cette phrase, « L'humanité souleva sa robe et me montra sa monstrueuse nudité. » Donc en fait, il va le faire. Il va le tuer. Mais il ne sait plus pourquoi. Sinon que c'est devenu son unique raison de vivre. Et comme il le dit, « Je suis l'homme d'un seul meurtre. »
Et Lorenzaccio, en 2019, il ressemblerait à quoi?
C'est un adolescent, no future. Il est très très jeune en réalité. Quelqu'un qui a tout vécu et qui a 20 ans. Est-ce possible?
Ce mal du siècle dont on a beaucoup parlé, ce sentiment d'inadaptation, est-ce que c'est pas aussi celui d'un jeune garçon de 19 ans?
Ce qui est terrible, c'est que Lorenzaccio, je pense qu'on ne peut pas le lire maintenant, quand on a 16, 17 ans, 18 ans. On n'a pas la patience. C'est une pièce injouable, c'est une pièce illisible. Je vais être honnête, hein, je viens de la relire. Il y a des grands pavés, des grandes tirades, des métaphores échevelées. C'est effectivement le romantisme le plus ébouriffant et ébouriffé. Qui lit ça encore aujourd'hui? Je ne sais pas. Pas grand monde, sans doute. Donc, c'est le cœur adolescent, ça c'est sûr. C'est magnifique. Et je pense pas que j'arriverai à le vendre à qui que ce soit de 15-16 ans. Hein. Alors, j'en lirai des extraits, c'est ce que je fais dans 3000 façons de dire je t'aime. Je raconterai l'histoire, j'essaierai d'incarner Lorenzo, mais en même temps, je dirais pas, bon bah tiens, lis-moi ça. Parce que là je sais ce que je vais me récolter. Ça va être une grande déception de l'autre côté, quoi. Il y a, enfin, sauf vraiment le lecteur exceptionnel, même le lecteur naïf d'aujourd'hui ne va pas accrocher.
Et vous, pourtant, vous avez accroché?
Eh bien oui. Mais comme je le disais souvent, je dis souvent aux enfants, mais je m'emmerdais grave. Et ça, c'est une super chance que j'ai eue. Je pense que ça a fait beaucoup dans ma créativité. Hein. Je pouvais laisser le temps à mes fantasmes de se déployer. Alors, peut-être que je lisais de façon naïve et rêveuse, surtout. Voilà. Je pense à la phrase de Jules Renard qui dit je lis comme les poules boivent en levant souvent la tête pour faire couler. Et je pense que, voilà, je laisse couler.
Donc, on parlait d'un livre difficile à lire, pas forcément accessible, où il faut pas mal s'ennuyer pour en venir à bout. Je pense que ça fait une bonne transition avec Dickens, non?
Ah oui, parce que là, il faut beaucoup de temps également. Dickens, il faut lui laisser le temps. Et c'est bon. Ben alors, maintenant, il y a quand même des lecteurs de séries ou des long-sellers. Et donc, peut-être qu'il y a des long-readers pour ce genre d'ouvrage. Mais là encore, il faut accepter un certain nombre de choses pour rentrer dans ce genre d'univers. Pourquoi choisir donc ce livre? Voilà, il est dans la bibliothèque, il y a marqué Dickens, notre ami commun. Alors, d'abord, je vois qu'il s'était Dickens, alors je me suis demandé si on allait parler de Dickens, qui serait notre ami commun, à qui, je ne sais pas. Donc, j'ai ouvert ce beau livre en cuir, relié, doré, sur tranche et tout. Et je commence par « En lisant Dickens, géographie humaine ». En fait, c'est la préface d'un philosophe. Alors, je vais me faire avoir, là, parce que moi, je lis tout. Donc, je commence par cette phrase. J'ai toujours lu Dickens et relu sans aucune fatigue. J'avais le sentiment de m'instruire de ce qui importe. Depuis que j'ai appris à trouver mes idées dans les romans, j'ai pris bien au sérieux Dickens. C'est le philosophe Alain qui commence comme ça. Alors,
De qui parle-t-il? Est-ce que c'est Dickens qui est notre ami commun par rapport à Alain? J'ai rien compris, en fait. Et puis, j'ai continué et je suis arrivée donc au chapitre premier, chapitre 20, à la découverte.
L'histoire un peu fil rouge, si on peut trouver un fil rouge, c'est une histoire d'héritage quand même. C'est une histoire de, évidemment, un homme très riche meurt, il laisse un testament, alors son fils pourra hériter à une seule condition, qu'il se marie avec une jeune fille qu'il ne connaît pas. Évidemment, il a coupé tout contact avec son fils depuis des années. Le fils revient, mais on retrouve son cadavre, mais en fait, il n'est pas mort. Bon, voilà. C'est rebondissement sur rebondissement sur rebondissement. Voilà.
On est un peu même dans le marivaudage à un certain moment, puisqu'en fait, comme il doit épouser cette fille mais qu'il la connaît pas, il est assez content de passer pour mort. Donc, il va aller l'observer. C'est là qu'il va devenir le locataire chez le papa et pouvoir observer cette fille qui, en fait, a été choisie par cet avare épouvantable parce qu'il l'avait vue petite fille en train de faire un caprice et de se rouler par terre. Donc, en fait, il s'est dit « Ah, bah voilà une petite fille selon mon cœur, c'est-à-dire une chippie en réalité. » Et c'est une chippie. C'est un des jolis personnages de Dickens qui n'était pas très fort non plus sur les personnages féminins, on en revient à Tintin. C'est un personnage, c'est une fille qui veut devenir, qui se dit elle-même vénale et qui a envie de fric en fait. Elle souffre tellement de la pauvreté, mais je suis si belle et puis là, je suis dans ce logis, regarde-moi ça, j'ai qu'un bout de miroir avec la belle coiffure que j'ai et tout. Donc elle passe son temps à rouspéter, elle est d'une famille nombreuse, avec une mère épouvantable, une demi-sœur qui est très pénible, etc. Et un papa charmant qu'elle martyrise. Et donc, comme elle va se faire adopter par ce boueur doré qui va hériter, puisque le véritable héritier est passé pour mort, c'est lui qui va hériter de ça, et elle va devenir sa protégée, et il va l'enlever à la pauvreté, mais elle est bien décidée à épouser un riche. Et donc, quand le petit secrétaire, qui est en réalité le véritable héritier, va lui déclarer son amour, elle va l'envoyer chier, parce que bon, t'as pas vu ton salaire, quoi. Donc c'est vraiment quand même, au départ, c'est un personnage qui est charmant, parce que elle est parfaitement consciente d'être abominable, avec son père, elle le fait tourner en bourrique, mais en même temps, c'est vraiment un personnage qui va morfler, hein, parce qu'il va falloir quand même qu'elle mérite un petit peu d'être heureuse quand même, donc elle va avoir des épreuves. Et alors là, bon, relaissons parler à la lectrice naïve lisant ce livre, j'ai appris avec Dickens qu'un livre s'était fait pour rire. Pour pleurer, pour avoir peur, pour vouloir savoir la suite. C'est lâcher la bride à toutes ces émotions. Et puis ça finit bien.
Et vous, ça a été le cas?
Ça a été Dickens. Et j'ai su pourquoi je lisais. Et j'ai su pourquoi j'écrirais.
Et pourquoi, à votre avis, il a joué un rôle aussi important dans votre construction, pas seulement de lectrice, mais d'autrice?
Des fois, je cite Montaigne, hein, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et très souvent, je dis aux enfants, vraiment, la lecture, c'est une rencontre. C'est rencontrer quelqu'un qui, pour toi, sera éternellement vivant. Bah, Dickens, il est dans cette pièce, il est juste au-dessus de mon ordinateur. Je l'appelle Charlie ou Chuck, il est juste au-dessus de moi. Et même parfois dans ma vie privée. Donc, de temps en temps, j'ai pu l'appeler à la rescousse. Je suis allée 3 fois sur sa tombe. Je lui ai demandé de me faire écrivain.
Parce qu'on se fait faire écrivain comme on devient chevalier.
Exactement, c'est ça.
J'étais pas au courant.
Je me suis fait adouber par lui. Ben, je l'ai choisi, il m'a choisi, on s'est choisi. Bon, voilà, j'ai projeté énormément de choses sur lui. J'ai décidé que c'était my heavenly father, mon père du ciel. J'avais son portrait pendant un certain temps, je l'avais porté sur moi. Les gens me demandaient qui c'est, je disais c'est mon grand-père. Et donc, bon, mon fils cadet s'appelle Charles. Enfin bref, il est mêlé à ma vie, ça c'est sûr. J'ai tout lu, j'ai lu sa correspondance, j'ai lu plein de biographies. J'ai fini par écrire sa biographie pour les plus jeunes, parce que sa vie est un roman fantastique. Et puis, voilà, je sais ses défauts. Comme personne, comme écrivain, mais on aime les gens pour leurs défauts aussi. Je suis partie en Angleterre étudier Dickens. J'étais mariée, j'ai un petit garçon, j'ai laissé tout ça à la maison. Je suis partie pour aller étudier Dickens avec ma bourse. Et donc, j'avais un sujet. J'ai jamais fait le sujet en question. Ils se sont fait avoir en British Council. Sauf que je pense que j'ai...
C'est quoi l'intitulé du sujet?
Alors, je voulais dire Dickens, écrivain pour enfants ou écrivain de l'enfance. Voilà. Alors, mon sujet, c'était effectivement de démontrer, en gros, je voulais quand même me le prouver, que Dickens n'est pas lisible pour un enfant. Voilà. Et qu'est-ce qui pose problème
dans son écriture. Donc, je suis allée dans des écoles, même anglaises, et j'ai lu des passages d'Oliver Twist ou des passages de Dombey et Fils. Je suis allée aussi voir des collégiens. Je me suis aperçue que Dickens n'est pas lu, en réalité. Ils connaissent vaguement les histoires par des films. Puis, ils m'ont dit « Ouais, mais c'est plein de vieux mots, hein !» Donc, bon, puis, il dit souvent la même chose. De fait, il est assez répétitif du fait même du roman feuilleton. Hein. Et puis, chaque personnage est accompagné d'une espèce de jingle pour qu'on le repère bien. Donc, ils avaient pisté ces trucs-là. Et je leur ai lu des extraits et j'ai vu qu'ils ne comprenaient pas. Alors, qu'est-ce qui pose problème ? Un des problèmes va être l'humour. Parce que ça joue sur des registres comme l'ironie. L'ironie, et je fais gaffe moi aussi quand je l'utilise, c'est le fait de dire une chose et il faut comprendre le contraire.
Et ça, c'est 15 ans ? 10 ans ? Quoi, à quel âge on...
C'est 15-16 ans peut-être pour commencer. Alors, il y en a, c'est plus tôt, hein, ils sont très fins. Moi, je vois bien, hein, je vois des 12-13 ans, tu peux jouer. Et puis d'autres qui prennent tout au premier degré. Donc, l'ironie, c'est mort. Donc, moi, qui travaille beaucoup, qui suis un écrivain de l'humour, qui travaille beaucoup là-dessus et qui travaille avec des enfants qui grandissent, ça m'a énormément intéressée de voir à quel moment on pouvait rire d'une façon ou d'une autre. Alors, le plus souvent, ce que je fais... c'est que j'utilise un peu tout l'éventail de ce qu'est l'humour. Hein. Tu peux avoir de l'humour cacaproute, tu peux avoir de l'humour carambard, tu vois, puis tu peux avoir de l'humour satirique, tu peux avoir de l'humour parodique, mais pour avoir de l'humour parodique, il faut avoir les références. Tu peux rire d'une imitation de Blanche-Neige, mais il faut avoir lu Blanche-Neige. Et puis, il y a l'ironie, le point d'ironie, et ça, c'est vraiment, on va dire, le sommet de l'humour. Et puis l'humour noir, quand les enfants sont si moralistes, moi j'ai des histoires terribles, hein, avec je fais rire, c'est une femme qui s'appelle Aimée, qui est une femme battue, je fais rire avec une mère de famille qui boit du canard WC et qui en meurt, mais c'est épouvantable, mais voilà, mais ma question est toujours jusqu'où, et qui me suit. Donc on ne s'interdit pas de mettre du pathos et du drame, et on ne s'interdit pas la cruauté, la dureté de la vie. Moi, je ne cache pas grand-chose, je prends des thématiques dures, des personnages rudes parfois, et puis surtout, je travaille de plus en plus sur la complexité, en réalité. Parce que fin heureuse, ça paraît niaiseux dans sa simplicité. Hein. Donc, plus j'ai évolué avec mes lecteurs, plus j'ai travaillé sur des fins complexes, tout de même, plus ouvertes sans doute.
Oui, parce que en fait, c'est quoi une fin heureuse ? Parce que si on se réfère à la littérature jeunesse, ça veut dire un papa, une maman qui se marient, qui restent ensemble pour toute la vie, qui font 4 enfants, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, c'est ça une fin heureuse. Mais actuellement, je trouve ça peut-être un peu restrictif parce que moi, finir avec entouré de mes amis, avec mes chats, je suis pas sûre que ça serait une fin malheureuse.
Exactement. Je pense que surtout, les schémas se sont diversifiés. Ça a beaucoup bougé, ça c'est sûr. En 30 ans que j'écris, ça a énormément évolué.
Donc votre notion de fin heureuse a changé depuis 30 ans?
Oui. Je cherche pas qui va aller avec qui de façon obsessionnelle. Bien sûr que j'ai besoin d'histoires d'amour, hein. Mais je pense que je vais avoir besoin au moins de 7 saisons pour qu'on comprenne comment on peut arriver à reconstituer une cellule familiale et que ça va être au prix de renoncement, de désillusion. Je le fais vivre même aux enfants. Je le fais vivre actuellement au petit garçon de Louise, la nouvelle compagne de Sauveur. Et c'est cet enfant pour qui c'était magique d'aller chez Sauveur le mercredi s'aperçoit que, en fait, de vivre sous le toit de Sauveur, ben, c'est pas mercredi tous les jours, en fait. Parce qu'il a gagné quelque chose, mais il a perdu quelque chose. Il a perdu cette exclusivité qu'il avait sur sa mère. Et en fait, il en veut beaucoup aux autres. Il a l'impression de s'être fait arnaquer. Et il devient, alors que c'était un petit personnage très pur, il devient ambivalent et il devient difficile. Et je me dis, bon, alors voilà, comment je vais faire pour que chacun trouve sa place? Et c'est long, c'est très très long, et c'est pas magique. Et on va passer par des moments de perte, de désillusion, de chagrin. Ça fait partie de la vie.
Les 3 livres que vous avez choisis, c'est 3 livres écrits par des hommes. Est-ce que vous manquiez de modèles féminins quand vous étiez plus jeune, de modèles de femmes écrivaines ?
J'ai grandi dans un univers féminin, puisqu'en fait, à l'école, ce n'était que des filles, et les professeurs n'étaient que des femmes. Et nous ne parlions que des hommes. Jamais entendu un nom de femme même scientifique, même sportive, rien. Et alors, surtout pas écrivain. La fois où j'ai entendu parler d'une femme, c'est parce que j'ai demandé à faire un exposé. J'ai levé la main et j'ai dit, est-ce que je peux faire un exposé sur Colette? C'était en classe de première. Alors pourquoi Colette? Ben, je venais de la découvrir, peut-être à cause de ma maman qui m'avait dit le blé en herbe. Elle était un peu troublée à me le conseiller, parce que c'est quand même une histoire pas très politiquement correcte non plus, puisque c'est une femme âgée qui va initier à l'amour un adolescent. Donc ça l'avait beaucoup troublée à la très jeune fille, et un petit peu gênée, un petit peu tremblante, mais sachant que ça allait marcher, elle m'avait dit souffler, murmurer, le blé en herbe, et puis aussi Claudine à l'école. Donc bon voilà, j'ai commencé la série des Claudines, puisque c'est une série, et là encore, pour de mauvaises raisons, j'ai aimé. Colette, elle m'a introduite aussi à l'amitié amoureuse, encore une fois, cette fois-ci entre filles. Et donc, j'ai fait cet exposé où j'ai beaucoup mis en avant, très certainement, tout l'aspect lesbianisme, homosexualité. Mais des mots comme ça, résonnant dans une classe de première, dans un univers très feutré. Et ce jour-là, j'ai eu une chance incroyable. Le professeur était absent et c'était le stagiaire homme. Mais c'était le premier homme qu'on rencontrait dans l'école. Et j'ai eu le stagiaire homme qui m'a écouté. Il s'est mis au fond de la classe. J'ai pris la place du professeur au bureau. Alors comme, bon, j'étais quand même un peu impressionnée, j'avais tout écrit. Donc en réalité, j'ai tout lu et non pas parlé. Et à la fin, j'ai relevé la tête. Et mes yeux ont rencontré les yeux du stagiaire. Et c'est là que j'ai vu qu'il avait les yeux troublés. Pour la première fois, je crois, je me suis dit, avec des mots, on peut obtenir ça. J'avais troublé quelqu'un. Il m'a fait, c'était bien. Ça m'a suffi.
Vous venez d'écouter Marie-Aude Muraille et les trois livres qu'elle recommande sont Tintin au Tibet de Hergé chez Casterman, Lorenzaccio de Musset en poche, L'ami commun, le mystère d'Edwin Drood de Dickens en Pléiade. L'entretien a été mené par Maud Ventura et il a été monté par Maud Benakcha qui était aussi à la coordination. Pauline Thompson a composé la musique et Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le commenter sur les différentes plateformes et à le recommander autour de vous, à vos amis, à vos libraires. C'est la meilleure manière de nous soutenir. N'hésitez pas aussi à vous inscrire au club de lecture dans lequel nous discutons des livres évoqués dans le podcast. Rendez-vous sur louismedia.com ou sur le compte @bookclublouis sur Instagram. À très vite.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.